Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Philippe Corbet.
Bonjour François Ruffin.
Bonjour, bonjour Philippe Corbet.
Il est 8h33 sur BFM TV et RMC. On va parler ensemble du travail, de la réforme de l'assurance chômage, de la réforme des retraites. Mais d'abord, quelques questions d'actualité. Il y a un démantèlement en cours d'un camp de consommateurs de crack dans le nord de Paris, en fait à la limite de Pantin et Aubervilliers. Ça fait un an que les habitants de ces quartiers populaires attendaient cela. Il y a des centaines de consommateurs de crack, certains sont malades, qui ont été laissés là pendant un an, sans que la préfecture de police, la mairie de Paris ne trouve de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces consommateurs de crack aujourd'hui, maintenant que ce camp est démantelé?
La réponse est presque dans votre question, M. Corbet, puisque à la fois, évidemment, on ne peut pas accepter qu'il y ait un camp qui soit installé de cette manière-là, et on peut comprendre le démantèlement, mais quels soins derrière? Quels soins il y a eu pendant un an? Quels soins on a derrière? Et quel accompagnement on a pour qu'il n'y ait pas à nouveau un camp qui se forme et qu'on aille vers une résolution de ce problème? Donc là, l'étape, elle est là, mais il y aurait déjà pu y avoir des soins depuis un an. Mais vous avez fait la question et la réponse.
Non, mais il y a quand même des dizaines de milliers d'habitants de ces quartiers populaires de Pantin et Aubervilliers. Franchement, c'est des gens qui se lèvent tôt le matin, qui vont bosser, qui font des boulots que d'autres ne veulent pas faire, qui vraiment ont vécu une année difficile et qu'on a laissé, mais vraiment tout seul face à une situation difficile.
Oui, ben alors moi je suis pas francilien, hein, mais je vois comment des gens peuvent être dans d'autres quartiers ou dans d'autres campagnes laissés dans des situations difficiles durablement. Moi, ce que je dis toujours, j'étais, vous savez, pour un amendement vie ma vie quand je suis entré à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le ministre de la Justice, il va passer un moment en prison. C'est pas une allusion à l'actualité récente, mais pour voir comment ça se passe. Le ministre de la Santé, il va à l'hôpital pour voir comment ça se passe et pour se mettre au travail. Là, je veux dire, il devrait y avoir un ministre qui va passer ne serait-ce que 24 heures dans ces conditions-là. Moi, je dis que
quand on n'a pas vu beaucoup de candidats à la présidentielle aller. Certains s'y sont allés, mais pas tous.
Non, vous voyez, moi, je suis désolé, mais je suis pas élu de Pantin. Donc,
mais la circonscription.
En tout cas, ici comme ailleurs, on doit avoir un traitement qui. On peut comprendre qu'il y ait la nécessité de la police dans ces situations-là, mais ça doit être doublé d'un traitement social, de traitement de soins, de qu'est-ce qu'on fait derrière.
Alors, autre question d'actualité, ce qui s'est passé hier après-midi à l'Assemblée nationale. Séance assez tendue, première séance de questions. Ça a été tendu notamment après une question de la chef du groupe Renaissance, Aurore Berger, qui évoquait, sans le citer, votre collègue insoumis, Adrien Quatennens. On l'écoute.
Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit.
François Ruffin, est-ce que Adrien Quatennens peut rester député ?
Il ne s'agit pas là de demander sa démission. Moi, dès le lendemain de son communiqué, j'ai dit que je souhaitais une mise en retrait, qu'elle me paraissait nécessaire, à la fois dans le mouvement et dans le groupe parlementaire, le temps que les esprits s'apaisent, qu'on voit quelle est la nature des faits, et ainsi de suite. Mais je veux quand même répondre à Mme Berger. Je veux dire, comme aurait dit le Christ, il faut quand même regarder la poutre qu'on a dans son œil plutôt que la paille dans l'œil du voisin. Quand on a sur les bancs de Renaissance, aux côtés de Mme Berger, Damien Abad,
qui a été sorti du gouvernement.
Oui, ben d'accord, mais il est là, il est à l'Assemblée. Mmh. Et manifestement, sa démission n'est pas posée sur la table. Quatre femmes l'accusent de viol. Il y en a deux qui ont bu un verre avec lui, qui se sont retrouvés avec une substance chimique, et finalement derrière, nus dans une chambre d'hôtel, d'après leur dire. Et
c'est sur les faits.
Quand on a comme ministre M. Darmanin, quand même, à un moment, des faveurs sexuelles.
Qui a obtenu des non-lieux.
Oui, il reste des faits. Des faveurs sexuelles, et en échange, qu'est-ce qu'il fait? Il tente d'influencer la justice. Des faveurs sexuelles, et en échange, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un logement, il trouve un emploi. Avec des messages qui sont parus dans la presse, très très insistants sur une femme qui s'est considérée comme violée et qui me dit, qui lui dit, ne me contactez plus, oubliez mon numéro.
La justice a enquêté et il y a eu des non-lieux dans, les deux affaires.
Il y a eu des non-lieux. On peut revenir sur la distinction entre sanction et punition par la loi. Monsieur Darmanin, que dit la psychologue qui observe de sa victime? Elle dit qu'on est dans une situation de soumission et d'emprise, en état de choc avec des troubles dissociatifs.
Vous voulez dire qu'il y a une hypocrisie d'Aurore Berger?
C'est pas une hypocrisie, c'est carrément deux poids deux mesures. Enfin, je le dis, il faut qu'elle regarde la poutre qui est dans son œil. Maintenant, il faut sortir de. Il s'agit pas de se jeter des cas comme ça, tous azimuts. Mais quand même,
c'est un peu ce que vous faites ce matin.
Attendez. Adrien, pour l'instant, il n'est pas sur les bancs. Et on a Monsieur Darmanin qui est sans difficulté. Maintenant, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la loi, le tribunal. Et il y a les sanctions qui peuvent être prises par des partis politiques, par des groupes. Oui, vous savez,
il y a quelque chose de précis dans Éric Adnas. Il ne s'agit pas d'attendre une éventuelle mise en examen ou condamnation. Il a lui-même avoué avoir frappé sa femme. Il siège aujourd'hui, même s'il ne vient pas physiquement, mais il est dans votre groupe insoumis. Et vous savez ce que les gens qui nous écoutent pensent? Comment peut-il se mettre en retrait et continuer à être payé comme député si moi, j'avoue que j'ai tapé ma femme, je peux pas me mettre en retrait de mon entreprise, et si je me mets en retrait de mon entreprise, je vais pas toucher ma rémunération.
C'est un autre problème, mais
c'est aussi la question.
Disons quand même que avec Adrien Quatennens, on a un homme qui n'est pas devenu député pour faire de l'argent, mais par conviction qui devait défendre l'intérêt des gens dans le pays. Ensuite, si on dit demain, il y a une part de sa rémunération qui décide de se garder le salaire moyen d'un Français et qu'au-dessus, c'est donné à des associations et ainsi de suite, ça peut être une mesure qui complète. Mais enfin, le cœur du sujet, pas celui-là, le cœur du sujet aujourd'hui, ce que je veux poser, moi, je pense qu'il nous faut une charte nationale. Il nous faut une charte nationale parce que vous savez, c'est pas seulement les partis, c'est les syndicats, c'est les associations, c'est les entreprises qui fait que quand il y a un cas qui se produit comme ça... l'agresseur ou la personne qui est mise en cause, elle se retrouve pas à continuer à être là entre les murs, mais que ça soit pas des mesures.
Mais vous savez comment ça se passe dans l'entreprise? Si une sanction qui est prise contre un employé qui en raison de violence, non seulement il est mis en retrait, mais il est suspendu, il ne touche pas sa rémunération et il est limogé.
Oui, d'accord, mais ça dépend. Derrière, il peut y avoir un retour dans l'entreprise, ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un temps pour les sanctions internes, mais ça doit être cadré juridiquement. Ça doit être cadré.
Et là, c'est trop flou aujourd'hui.
C'est chacun qui fait sa sauce dans son coin. BFM fait à sa sauce, les Verts font à leur sauce, les Républicains font à leur sauce. Enfin voilà, chacun fait à sa sauce. Non, il doit y avoir une charte nationale de bonne conduite, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça veut dire une violence. Parce que là, on est sur un sujet où on a quelques noms qui ressortent, mais en vérité, c'est toutes les entreprises. On a un fait social qui émerge parce qu'il a été. Vous savez, moi, c'est dans des usines où j'allais et des ouvrières me racontaient comment elles étaient convoquées par le contremaître et comment ça se passait dans le bureau du contremaître. Comment elles acceptaient ou comment elles acceptaient pas, mais comment il y avait une pression qui était mise sur des jeunes femmes qui rentraient dans l'usine.
Probablement pas que le contremaître puisse revenir travailler quelques mois plus tard.
Oui, mais pour l'instant, ce qui s'est passé en vérité, bien souvent, c'est que le contremaître, il a continué à travailler pendant des décennies dans l'entreprise. Alors, c'est ça qui se passe. Donc aujourd'hui, quel est le chemin? Il faut poser un cadre national, une charte nationale où on sait comment ça doit se passer et où les femmes, on la garantit d'une protection et où les personnes mises en cause, on la garantit de pouvoir échanger aussi.
Alors après l'extrait qu'on a diffusé d'Aurore Berger, il y a eu plusieurs minutes d'agitation dans l'hémicycle où vous y étiez, notamment Daniel Obono a été sanctionné pour un rappel à l'ordre, enfin bref. Vraiment, l'image était assez terrible. Et quand vous voyez ça, en fait, je pensais à une étude qui a été publiée hier dans Le Monde, une étude Ipsos menée sur 12 000 personnes pour la Fondation Jean Jaurès. Les Français très sévères sur la stratégie d'opposition de LFI. 53% des Français trouvent la forme d'opposition des Insoumis trop radicale. C'est 20 points de plus que le RN. 59% des Français estiment que LFI attise la violence. 57% des Français jugent LFI dangereuse. Et en fait, LFI est jugé plus sévèrement que le Rassemblement National. Quand vous voyez ça, vous dites pas alerte, attention, on est en train de crédibiliser ou d'aider le RN à se crédibiliser.
Bon, des alertes, il se trouve que moi, pour ma part, ça fait quelque temps que j'en lance sur comment on doit mener la bagarre face au
Rassemblement
National.
Notamment dans un livre dont on va parler.
Maintenant, je veux pas surjouer ce qui se passe à l'Assemblée Nationale. C'est pas comme si les Français, ils avaient leur œil rivé. Là, on en cause depuis 11 minutes, mais au fond, la vie ordinaire des Français... La vie ordinaire des Français, elle est pas concernée par ça. Les questions, ce qui se pose, c'est est-ce que mon train, il va finir finir par être à l'heure un jour? Est-ce que je vais avoir de l'essence à mettre dans ma voiture? Est-ce que je vais pouvoir remplir mon assiette sans me restreindre, puisque aujourd'hui c'est un quart des Français qui n'ont pas de quoi mettre dans leur assiette? Donc en revanche, il faut quand même dire que l'Assemblée nationale doit être un lieu où apparaît de la conflictualité, exprimée d'une manière ou d'une autre, mais apparaît de la conflictualité. Pourquoi?
Mais pas les insultes.
Non, bah non. Mais pourquoi de la conflictualité? Parce qu'on est une société qui est traversée par des conflits. Le rôle de la démocratie, c'est d'institutionnaliser, de verbaliser, de mettre en scène le conflit pour qu'il se passe de manière non violente, de manière avec des mots et non pas avec des gestes, mais qu'il y ait des lieux de représentation, d'incarnation des conflits qui traversent la société. Et l'Assemblée est un lieu pour ça. Donc je ne voudrais pas qu'on, sous prétexte qu'il peut y avoir des excès, on se dit, ah ben non, mais il faut une chambre au consensus. Non, c'est pas ça. Il faut incarner une franche opposition à Macron et à son monde. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Justement, Emmanuel Macron, son secrétaire général de l'Élysée, donc son bras droit, certains le décrivent comme son deuxième cerveau, Alexis Kohler est mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'enquête sur ses liens avec l'armateur MSC, en fait, qui appartient au cousin de sa mère. Sur ce plateau, hier matin, au micro d'Apolline de Malherbe, Marine Le Pen a dénoncé le pantouflage. Et elle a annoncé qu'il y aurait une... Alors, pantouflage, en fait, c'est des hauts fonctionnaires qui vont travailler dans le privé.
Comme M. Macron, quand il était dans le public, qui est parti dans une banque d'affaires et qui revient d'abord à l'Élysée pour conseiller François Hollande et maintenant comme président de la République. C'est ça, du pantouflage et du rétro-pantouflage.
Donc, Marine Le Pen dit qu'elle va déposer une proposition de loi pour encadrer plus sévèrement ce pantouflage. Est-ce que vous pourriez la voter?
En tout cas, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une loi de séparation de l'État et de l'argent. Vous savez, on parle de lobby. Mais lobby est un mot trop faible. Aujourd'hui, lobby suppose une pression de l'extérieur sur les institutions, sur l'État. Mais non, c'est pas ça.
Le lobby est à l'intérieur aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est une colonisation par l'intérieur de l'État.
Et colonisation. Ils ont été élus.
Non, mais Monsieur Kohler a pas été élu.
Non, mais Emmanuel Macron a été élu.
Dans le cas de Monsieur Macron, avant son élection, il y a déjà eu un premier tour qui fait qu'il a été adoubé par des intérêts privés. Il est allé voir un certain nombre de grands patrons et qui ont misé sur lui. Et ensuite, il y a un premier tour devant le peuple et un deuxième tour devant le peuple. Mais il y a eu un tour avant et c'est d'abord par des intérêts privés.
C'était le candidat choisi par les patrons.
Oui, bah, tout à fait. Et ça, je l'ai documenté. Donc, toutes les semaines, il allait dîner chez Monsieur Bernard Arnault, première fortune.
En 2017.
Tout à fait. En 2022, il n'avait plus les mêmes besoins. Et ce que je veux dire, c'est que là, ils sont accusés de prise illégale d'intérêts. Mais c'est leur métier. C'est leur métier.
De quoi?
C'est leur métier de livrer le pays à des intérêts privés. Je veux dire,
c'est pas leur intention première. Leur intention première, c'est de faire en sorte que la vie du Français soit meilleure et que la France soit plus puissante et plus prospère.
Je conteste absolument l'intention première de Monsieur Macron est d'abord de faire profiter les intérêts de ses amis financiers.
Mais vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire, que son intention première est criminelle d'une certaine manière?
Non, je dis son intention première est d'abord de satisfaire les financiers de ce pays. Oui, je le dis, Monsieur Corbet. Mais vous savez, Monsieur Kohler a agi dans ce sens dans plein de dossiers. General Electric, quand il rachète Alstom, est-ce que vous croyez que c'est dans l'intérêt des Français?
En tout cas, lui, peut-être qu'il avait tort, mais du point de vue, à ce moment-là, du ministre des Finances, c'était dans l'intérêt de la France.
Non, absolument pas, c'était documenté, c'est dans l'intérêt de plein de cabinets de conseil, c'est dans l'intérêt de M. Bouygues, c'est dans des tas d'intérêts privés, mais ce n'est pas dans l'intérêt des Français. Quand Nokia est à Alcatel qui est bradé, est-ce que c'est dans l'intérêt des Français qu'on laisse partir un pan de notre industrie comme ça? Quand aujourd'hui on a un enrichissement absolument prodigieux, les cinq premières fortunes françaises ont vu leur fortune tripler sous l'ère Macron. Est-ce que c'est dans l'intérêt des Français? Quand on a Total qui fait des profits, des surprofits, des sur-surprofits, et que alors que l'Europe le dit, alors que le Royaume-Uni le fait, alors que l'Espagne le fait, on a Monsieur Macron qui ne bouge pas le petit doigt. Est-ce que c'est dans l'intérêt des Français?
François, je voudrais qu'on parle du travail parce que c'est aussi ce qui préoccupe les Français en ce moment. Première chose, l'assurance chômage. Non, d'abord on va parler des retraites.
J'ai une affirmation qui est forte, mais je vais vous dire que c'est presque toutes les semaines qu'il y a des choix qui sont effectués pour les intérêts des financiers et contre les intérêts des Français. La semaine dernière, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé sur la pêche dans la Manche? Non, vous n'avez pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait déjà eu la pêche électrique il y a quelques années qu'avait laissé faire le président Macron. Ça avait profité aux financiers néerlandais de la pêche et pas du tout aux pêcheurs locaux qui avaient été atomisés, tout comme les ressources en poissons avaient été atomisées dans la mer du Nord. Maintenant, c'est dans la Manche que ça se passe. Et de la même manière, là, il y a eu un choix fait par le gouvernement de soutenir les financiers néerlandais de la grosse pêche plutôt que les pêcheurs artisanaux.
François Ruffin, pour parler du travail, d'abord...
C'est du travail, là, ce sont les pêcheurs artisanaux. On sacrifie les pêcheurs artisanaux au profit de la finance.
La réforme des retraites, c'est un sujet important. Vous souhaitez que la réforme des retraites passe par référendum. Dans cette campagne présidentielle qui a été perturbée par la guerre en Ukraine, il y a peu de propositions qui ont vraiment émergé dans la campagne d'Emmanuel Macron, ou en tout cas qui ont été vraiment identifiées par les Français, mais il y en a bien une, c'est le passage de l'âge légal à 65 ans. En quoi Emmanuel Macron n'a, selon vous, pas le mandat donné par l'élection présidentielle pour mener cette réforme et pourquoi faudrait-il la passer par référendum ?
Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, ce qui a besoin pour le pays dans la durée, c'est de l'apaisement. Il y a dans quel moment on se trouve ? On est dans un moment où le pays est exaspéré par 2 ans de crise du Covid.
Oui.
Il est fatigué, il est usé. Derrière, on a une élection d'Emmanuel Macron qui, excusez-moi, mais se fait quand même au raccro, sans élan,
oui,
sans enthousiasme.
On a bien parlé de l'âge légal à 65 ans. Tous les Français l'avaient bien entendu, cette proposition.
Je ne conteste pas.
Donc il a le mandat.
Non, il peut essayer. Mais non, ce que ça va produire, il le fera.
Ouais. Hein,
il le fera. Il le fera.
Sans référendum.
Il passe en force. Il le fera seul. Sans les syndicats, il le fera seul sans...
Il a le mandat des Français, il a été élu
non, là-dessus. Le mandat des Français, quand on a aujourd'hui 70 à 80% des Français qui se déclarent opposés à cette réforme, c'est ça que vous appelez le
mandat
des Français.
Ils étaient déjà au printemps et ils ont malgré tout
ça veut dire
élu
quoi
président de la République.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va accroître un sentiment qu'ont les Français dans la durée, c'est que la démocratie se fait sans le peuple, voire contre le peuple. C'est déjà été le cas au moment du traité constitutionnel européen.
En 2005, ouais.
Ça a été le cas au moment de la crise des Gilets jaunes où il n'y a pas de compromis social qui est passé. Et ça va accroître le sentiment que à quoi bon être en démocratie si jamais quand on est 70 à 80% à penser qu'il ne faut pas ça. Et vous savez, en plus, le premier adversaire de cette réforme, pour moi, c'est Emmanuel Macron lui-même. Vous avez vu ce qu'il disait à propos de la retraite à 62 qui serait rallongé. Il disait, c'est pas possible d'aller faire ça. Jamais les Français n'accepteront ça. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas banquier d'affaires ou conseiller chez McKinsey, quand on arrive à 60 ans, déjà, on a plus de la moitié des Français qui ne travaillent pas, parce qu'ils se sont fait opérer du poignet, se sont fait opérer du coude, se sont fait opérer des épaules. Et donc, tenir 2 années supplémentaires, c'est pas possible. C'est Emmanuel Macron lui-même qui le disait.
François Ruffin, cette nuit, l'Assemblée nationale, et vous êtes évidemment député, l'Assemblée nationale a adopté la mesure clé de la réforme de l'assurance chômage. Je résume pour simplifier, c'est une sorte de... Les indemnisations seraient plus élevées quand le chômage est élevé, les indemnisations seraient plus faibles quand il y a un chômage plus faible et quand en fait il y a des postes non pourvus. En ce moment, il y a des centaines de milliers de postes non pourvus. Il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont boulangers, restaurateurs, menuisiers, qui ont du mal à trouver des salariés pour les postes et ça met en danger leur entreprise. En quoi ce principe vous semble détestable, cette idée d'une modulation des indemnités en fonction du marché du travail?
Je veux dire déjà qui ça frappe concrètement. Moi, j'avais une assistante maternelle qui s'appelle Cindy, de nom son prénom, qui a travaillé pendant la crise Covid,
ouais,
qui, bien que souffrant d'obésité, a pris des enfants de soignants avec angoisse. Elle a fait le boulot. C'est d'elle dont Emmanuel Macron disait, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces hommes et ces femmes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Est-ce qu'à la sortie de la crise Covid, il y a eu une amélioration de son salaire, une amélioration de ses horaires, de son statut, de ses revenus? Rien. Elle a rien vu. En revanche, là, elle perd 2 contrats. Vous savez, elle avait 4 enfants, il y en a 2 qui entrent à l'école, elle perd 2 contrats. Elle se dit, alors, je vais aller me tourner vers Pôle emploi pour avoir un complément de revenu. Eh ben non, Pôle emploi, il n'y a plus rien avec la première réforme qui a eu lieu l'année dernière.
L'assurance chômage.
Eh oui. Et donc, elle passe de 1700 euros à 1000 euros par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses enfants, elle ne les met plus à la cantine. Ça veut dire qu'elle se restreint. Il n'y a plus de légumes sur le marché. Il n'y a plus de viande rouge. Ça veut dire qu'elle ne fait pas d'activité Zumba. Ça veut dire que très concrètement, elle me dit, moi, j'ai des insomnies. Je ne dors plus la nuit. C'est-à-dire que la réforme qui a été mise en œuvre l'année dernière et qui est complétée cette année, finalement.
Prolongée, ouais.
Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que ceux qui sont frappés aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler les permittents. C'est-à-dire des gens qui parfois travaillent, parfois travaillent pas. C'est exactement ceux qui étaient les travailleurs de la deuxième ligne, ils étaient au cœur de ça. Les ouvriers de l'industrie agroalimentaire.
Dans votre livre, je vous écris du front de la Somme que vous venez de publier. Vous racontez notamment ce que vous avez entendu pendant la campagne électorale dans votre département de la Somme. Je cite ces paroles de Français que vous mentionnez dans votre livre. Je cite un. Des assistés, des cassos, ceux qui ne se lavent pas le matin, ceux qui ne lèvent pas le matin, qui touchent des aides. Nous, on a droit à rien. des feignasses. La France subventionne les bons à rien. Vous les avez croisés, ces gens-là, ces Français, oui, qui voudraient que les, que certains soient incités de façon un peu plus, plus forte à retrouver du travail et à chercher du travail. Ça existe, ça. C'est vous-même qui l'écrivez.
Aujourd'hui, vivre avec le RSA, parce que vous savez, la plupart des chômeurs, la très large majorité des chômeurs, ne sont pas indemnisés aujourd'hui dans notre pays. Il y en a même plein. Une étude est tombée, qui ont des droits au chômage et qui, 25%, ouais, qui n'y font même pas appel. Donc, et aujourd'hui, personne ne dira, je pense que vous ne le direz pas, je pense qu'aucun ministre ne voudra ça, se dire, moi je vais aller vivre avec les 500 euros du RSA.
Non, bien sûr, mais en même temps, il y a des Français qui vivent avec peu, qui sont agacés et en colère.
Vous savez que moi, je défends le travail, la valeur du travail et la valeur travail. La question, c'est aujourd'hui, comment on fait pour vivre de son salaire? Moi, je viens avec une chose simple.
Mais ceux qui ne veulent pas retrouver le travail, ceux qui ne cherchent pas suffisamment de travail,
d'abord,
ceux qui vous parlent dans ce...
Vous savez,
les paroles...
Par exemple, vous savez, il y avait une mesure qui s'appelait contrat emploi solidarité. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des gens qui sont détruits par le travail, détruits par l'univers du travail. Parce que c'est un univers qui peut être difficile.
Mais personne ne le conteste. Mais quand vous avez par exemple Sandrine Rousseau qui dit que la valeur travail c'est une valeur de droite, qui a un droit à la paresse, vous dites le travail c'est le travail qui fait une vie au fond, qui donne une dignité à la vie.
Je pense que le travail est un identifiant social vachement important, qu'on se réalise en réalisant, c'est comme ça qu'on s'émancipe. Et donc, moi je suis partisan aujourd'hui de ce que de Roosevelt 1942, c'est-à-dire voilà, on met toute notre énergie, tous nos capitaux, tout notre savoir-faire au service d'une cause aujourd'hui qui est l'économie de clair climatique. Et là-dedans, il n'y a pas une paire de bras, il n'y a pas un cerveau qui doit ne pas être indispensable. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on donne une fierté du travail et c'est pas quelque chose, parce que le travail, il est maltraité depuis 40 ans. Il est maltraité par des gens qui délocalisent à l'autre bout du pays, il est maltraité du monde, il est maltraité par le salaire d'un enseignant, c'était 2,3 fois le SMIC en 1980. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. Donc, aujourd'hui, on a une maltraitance du travail. Et pourquoi aujourd'hui, c'était votre question initiale, les postes sont pas pourvus? Il y a des études du ministère de la DARES, donc du ministère du Travail et des Affaires Sociales, qui montrent très bien qu'à 80%, il y a des gens qui sont pas formés. Donc il y a une question de formation. Si vous voulez demain faire de la rénovation thermique, parce qu'on a besoin de rénover des centaines de milliers de bâtiments, il faut des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, on ne les forme pas.
François Ruffin, député de la Somme, député insoumis, était sur BFM TV RMC ce matin. Il est 8h54.